Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir été fidèles toute cette série de cours. Alors aujourd'hui, pas de poésie. J'ai un peu exagéré la semaine dernière. Alors, je préfère vous prévenir, les citations vont être moins exaltantes cette semaine. Bon, vous verrez. Et je vous préviens aussi, il est possible que je dépasse un petit peu, c'est le risque des dernières séances. On essaye de tout caser, de tout boucler. Voilà, donc vous aurez la séance et peut-être les bonus, on verra. Mais pas au-delà de 21h. Hein, non, je plaisante, j'en ai qui s'inquiète. Donc du coup, ne perdons pas de temps. La semaine dernière, nous nous sommes quittés à l'orée des années 1980, vous en souvenez. Je vous avais dit que le paysage intellectuel et politique français avait alors bien changé. Et de fait, lorsque Claude Lévi-Strauss republie « Race et culture » en 1983, eh bien Sartre est mort depuis 3 ans, Merleau-Ponty depuis plus de 20 ans. L'heure n'est plus au vif débat sur la décolonisation ou sur la révolution mondiale, mais aux inquiétudes hexagonales. La gauche est au pouvoir, mais le gouvernement Mauroy vient de prendre le tournant de la rigueur. Pendant ce temps, le Front National commence à pointer son nez. Il a connu ses premiers succès l'année précédente aux élections locales. La marche des beurs fait entrer dans l'actualité la question des minorités issues de l'immigration, tandis que d'anciens révolutionnaires marxistes se reconvertissent en républicains de choc. Dans l'histoire intellectuelle et politique récente, en effet, l'idée qu'il existe une tradition républicaine spécifiquement française fondée sur le refus des différences, sur l'affirmation de la cohésion nationale et sur une laïcité inflexible, trouve ses racines dans ce que l'on peut appeler le moment néo-républicain de la gauche française dans les années 1980. Face à la crise du marxisme, à l'éloignement de l'horizon révolutionnaire, une partie de la gauche s'est tournée vers la revalorisation de l'héritage républicain. Ce néo-républicanisme, incarné dans le champ politique par Jean-Pierre Chevènement, notamment issu de la gauche du Parti socialiste, et dans le champ intellectuel par une série de figures, notamment Régis Debray, c'est à lui que je faisais allusion, notamment ancien guérillero en Amérique du Sud, ce courant s'est aussi appuyé, il faut le mentionner, sur des travaux historiques et, par exemple, le livre de Claude Nicollet sur l'idée républicaine en France, hein, qui a été publié en 1982, un point de repère. Ce néo-républicanisme, il articulait plusieurs éléments. La critique de l'individualisme libéral, identifié aux excès du capitalisme marchand, la valorisation de la souveraineté nationale, aussi bien à l'égard de la construction européenne que de l'alliance atlantique avec les États-Unis, un certain goût de l'ordre et des valeurs morales, notamment à l'école, enfin, une méfiance envers les effets économiques et culturels de la mondialisation. Cultivant une sensibilité nostalgique, volontiers contempteur de la modernité, ce néo-républicanisme exaltait le passé national et tout particulièrement la tradition républicaine du XIXe siècle et la Révolution française. Il est resté très largement, il faut le signaler, à l'écart des débats historiques et philosophiques qui, au même moment, ont contribué à la redécouverte de l'histoire du républicanisme dans une perspective cette fois transnationale, et je pense notamment aux travaux de Quentin Skinner sur l'humanisme civique italien et à ceux de John Pocock, dont le moment machiavélien, publié en 1975, commençait à initier un flux de travaux sur le républicanisme classique et ses prolongements en Angleterre au XVIIe siècle, puis dans l'espace atlantique au XVIIIe siècle. Or, le néo-républicanisme français, à l'inverse, se voulait résolument franco-centré, insistant sur l'idée d'une tradition nationale spécifique qui non seulement ne pouvait nullement être comparée au républicanisme atlantique et surtout américain, mais qui s'y opposait radicalement. tout à son admiration pour les grandes heures de la Révolution française et pour les hussards noirs de la Troisième République, ce néo-républicanisme, à vrai dire, c'est une surprise d'ailleurs en relisant aujourd'hui tous ces textes, ce néo-républicanisme ne faisait guère référence aux Lumières. Cela mérite d'être noté. L'expression « universalisme » dans tous ces textes des années 80, et vous allez voir encore des années 90 en grande partie, l'expression « universalisme » ne renvoie pas au rejet chez ces auteurs, au rejet des identités particulières, comme c'est le cas aujourd'hui, mais à la volonté d'exporter les idéaux révolutionnaires et républicains, par les armes s'il le faut, une sorte de patriotisme héroïque et martial. Par exemple, dans « Que vive la République ?», publié en 1989, à l'heure du bicentenaire, Régis Debray vante les guerres révolutionnaires, le frisson sacré de la patrie en danger et du gouvernement révolutionnaire. Les guerres, extérieures et intérieures, sont les conséquences inéluctables, à ses yeux, et plutôt vivifiantes, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elles sont de véritables croisades, il utilise le terme, et il ne boude pas son plaisir, il assume les conséquences du combat pour l'universalité de la révolution. Je le cite, ses conséquences sont propagande, prosélytisme, expansion. Et il ajoute, vouloir l'universalisme sans le militantisme, c'est vouloir la fleur sans le fruit. Universalisme, ici, désigne avant tout la vocation prosélyte, et même agressivement prosélyte, du républicanisme français. Parce que la Révolution se réclame de principes universels, elle doit servir de modèle à l'univers, à la vocation à s'exporter. En revanche, le terme universalisme ne désigne jamais à cette époque l'idée d'une conception abstraite ou individuelle du citoyen. Et c'est assez logique parce que, en réalité, l'individu libéral est alors perçu comme la principale menace qui pèse sur la République. Par exemple, dans une longue tribune publiée 10 ans plus tard dans Le Monde, en 1998, sous le titre « Républicains, n'ayons plus peur », qui est une sorte de manifeste à ce moment-là du républicanisme, co-signé par 7 personnalités, dont Régis Debray, eh bien, la seule occurrence du lexique de l'universel, c'est pour dénoncer, je cite, « l'alliance des droits universels abstraits et de la marchandise ». Hein, donc les droits universels abstraits, hein, à ce moment-là, c'est censé être l'ennemi du républicanisme. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette alliance des droits universels abstraits et de la marchandise signe, aux yeux des auteurs, une régression libérale dont le citoyen républicain ne pouvait être que la victime. Les Lumières, en revanche, n'étaient pas mentionnées dans ce texte, et d'ailleurs, quelques années plus tard, Régis Debray se fendra d'un pamphlet « Aveuglante Lumière », hein, dans lequel il dénonce le douteux cosmopolitisme des Lumières, incarné par Voltaire, leurs relents libéraux et leur élitisme. Dans ces années-là, l'universalisme républicain désigne donc avant tout l'idée que la France parle pour le monde, que son modèle politique, à nul autre pareil, a vocation à s'exporter. D'ailleurs, encore en 2002, après, lorsque Pierre Bourets publie « La République et l'universel », c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une crise de l'idée que la France se fait d'elle-même comme grande nation ayant inventé la modernité politique. D'où la première phrase du livre, « La France a la passion de l'universel ». Et vous reconnaissez sur la couverture, peut-être pas l'auteur qui l'a choisi, mais vous reconnaissez bien la gravure de la citoyenne Goldsmith et de Frédéric Sorieux sur la République universelle, démocratique et sociale de 1848, que j'avais commenté lors de la séance sur 48 et qui orne le programme de ce cours. Mais vous remarquerez qu'elle est ici cadrée de façon à faire disparaître le haut de l'image, c'est-à-dire faire disparaître le Christ fraternel et donc l'inspiration chrétienne qui était si présente, vous vous en souvenez, dans le républicanisme de 48. Alors toutefois, dans les années 90, une seconde acception de l'universel a commencé à prendre de plus en plus d'importance, renvoyant cette fois plus ouvertement à un idéal d'homogénéité culturelle comme fondement de la cohésion nationale. Comme si, face au déclassement de la France sur la scène internationale, face à la perte de son statut de grande puissance mondiale, eh bien, le discours de l'uniformité républicaine venait remplir une place laissée vacante. Vous le savez, vous en souvenez, une étape importante de cette mutation du républicanisme fut la fameuse affaire du foulard islamique à Creil en 1989, lorsque trois jeunes filles furent exclues du collège Gabriel Havès pour avoir refusé de retirer leur foulard, révélant ainsi un espace d'abord d'incertitude juridique et suscitant de virulentes querelles publiques, polémiques autour de la place de l'islam dans la société française et de l'interprétation du principe de laïcité. Controverses et polémiques dont nous ne sommes pas sortis 35 ans plus tard, malgré la loi de 2004 et d'autres lois suivantes, et comme le prouvent les débats actuels autour du port du voile dans les manifestations sportives. De fait, le discours républicain va à partir de là progressivement évoluer d'une critique du libéralisme vers le rejet du multiculturalisme. Ça, c'est la grande mutation des années 90. La menace principale désormais semble venir, pour les tenants de ce républicanisme, de la fragmentation culturelle de la société française sous l'effet de l'immigration. Un danger existentiel pèse sur la nation qui est en passe d'être détruite par les tribus, comme l'écrit alors Alain Finkielkraut dès 1989 en ayant recours à un imaginaire ouvertement colonial. Il n'est pas inutile de noter qu'il écrivait ceci à l'occasion, vous avez la référence, un entretien dans Le Monde, à l'occasion de la grande cérémonie organisée pour le bicentenaire de la Révolution française et confiée à Jean-Paul Goude, cérémonie qu'il qualifiait de multitribale et qui, à ses yeux, annonçait la disparition de la France derrière le paravent, je le cite, de la démagogie antiraciste. Et il prédisait, ouvrez les guillemets, l'unité culturelle cédera la place à une juxtaposition de ghettos qui auront pour seul élément fédérateur le son électronique et la télévision. 1989. Donc je vous laisse décider, hein, chacun est libre, de savoir s'il faut y voir une extraordinaire clairvoyance prophétique ou remarquer que tout l'argumentaire de la déploration était déjà en place. Il y a 35 ans, il suffit de remplacer son électronique par rap et télévision par réseaux sociaux. Ce qui est bien clair, en tout cas, c'est que le discours républicain se repliait sur un nationalisme dont l'universalisme était essentiellement identifié au rayonnement des grands textes littéraires. Finkielkraut cite Chateaubriand et Hugo, et renvoyer à un passé mythifié. Cette critique des tribus et du multiculturalisme était alors portée par toute une série de livres d'actualité, essentiellement des enquêtes journalistiques et des essais, plutôt que des travaux de sciences sociales, et on peut signaler parmi eux, parce qu'ils sont des marqueurs assez intéressants, les livres de Christophe Gélène, qui était journaliste à l'époque au Point, notamment « Les casseurs de la République » en 1997, ainsi que son article publié la même année dans Le Débat sous le titre « La régression multiculturaliste ». Cette évolution du républicanisme vers la dénonciation du multiculturalisme a été bien analysée à la fin de la décennie par l'historien Jeremy Jennings, spécialiste d'histoire coloniale, dans un article consacré au lien entre républicanisme et multiculturalisme. Sur un plan plus théorique et plus positif, la tentative la plus cohérente d'ancrer le républicanisme dans une réflexion philosophique sur la nation est venue de Dominique Schnapper, sociologue, dans un livre de 1994, La communauté des citoyens, qui se présente comme une théorie de la nation moderne opposée à la nation ethnique. La nation moderne ou démocratique, dont la France, dit-elle, donne la formule depuis 1789, repose sur un dépassement politique de toutes les identités particulières. L'accès à la citoyenneté est le mouvement par lequel les différences ethniques, sexuelles, mais aussi culturelles, sont transcendées par la constitution d'une communauté de destin. comme les Krishnapers, c'est l'effort d'arrachement aux identités et aux appartenances vécues, vécues comme naturelles, par l'abstraction de la citoyenneté qui caractérise en propre le projet national. Et vous voyez tout d'un coup apparaître, mais cette fois de manière positive, cette idée d'abstraction. Ce ne sont plus les droits universels abstraits qui sont dénoncés, mais au contraire, l'universel est identifié à l'abstraction, là où les différences non seulement biologiques, mais même culturelles, font obstacle au projet politique de la nation. C'est cette abstraction qui rend la nation civique doublement universelle. Elle réunit tous les citoyens et elle peut servir de modèle à toute nation. Néanmoins, Dominique Schnapper a bien conscience que la nation ne peut pas reposer uniquement sur un universel abstrait, sur une citoyenneté désincarnée et théorique, car elle doit se doter d'un État, d'institutions, de frontières, de références historiques et culturelles. Le mouvement politique de dépassement des particularismes trouve donc son pendant dans un autre mouvement en sens inverse, sociologique en quelque sorte, qui institue une singularité nationale et permet l'intégration des citoyens dans la vie commune. Le particulier réapparaît ainsi à l'échelle, cette fois, de la nation. Et il entre, du coup, en contradiction avec l'idéal universaliste. Et par ailleurs, il reste assez peu clair de savoir si cette nation civique est définie comme la forme moderne et démocratique de la nation en général, sur la base d'une théorie sociologique de la modernité, ou comme la forme française de la nation par opposition à d'autres modèles nationaux, sur la base, cette fois, plutôt d'une analyse historique. Dans les années suivantes, alors que le débat, donc la fin des années 90, alors que le débat sur l'universel, justement, commence à gagner en visibilité autour de cette association universelle abstraction, eh bien, Dominique Schnapper est revenu, ça vaut le coup de le noter, est revenu à plusieurs reprises sur le sujet dans un ensemble de textes assez nuancés, et notamment un texte de 2000, que je vous ai... je suis allé trop vite tout à l'heure... je n'ai pas mis le... Bon, pardon. Elle a sauté la... voilà, la slide de Dominique Schnapper, je suis désolé, n'est pas apparue, bon, ce n'est pas grave. Vous avez les références du livre. Donc, dans un article de 2000, elle défend à nouveau l'universel républicain, conception idéale du citoyen comme individu délesté de toute autre appartenance, mais elle reconnaît que cet universel républicain a des effets pervers et que ces effets pervers doivent être corrigés, notamment grâce à l'État-providence qui limite les inégalités et mène, écrit-elle, une forme de politique de discrimination positive. Et on remarque d'ailleurs qu'elle parle d'universel républicain et pas encore d'universalisme. Le syntagme universalisme républicain est en voie d'apparition, mais il n'est pas encore stabilisé à la toute fin des années 90-2000. En fait, au même moment, c'est-à-dire la fin des années 90, le tout début des années 2000, c'est un autre débat qui fait émerger le thème et ce syntagme de l'universalisme républicain au cœur du débat politique. Je vais passer assez rapidement parce que ceux qui étaient là s'en souviennent, j'avais parlé assez longuement de la question dans la séance de l'an dernier, du 11 mars 2024, c'est le débat sur la parité qui conduit au vote de la loi de 2000 imposant aux partis politiques de présenter un nombre équivalent d'hommes et de femmes aux élections en vue de remédier à l'impressionnante sous-représentation des femmes dans la vie politique. Les critiques de la loi lui ont opposé l'idée d'un universalisme républicain qui serait totalement indifférent au genre des citoyens, de même qu'à leur religion ou à leur origine. Les débats, on l'a un peu oublié aujourd'hui, ont été très vifs, donc le cours, si vous le souhaitez, est en ligne. Les débats ont été très vifs, et là, il y avait toutes les références bibliographiques, et ils ont d'ailleurs suscité des scissions au sein du mouvement féministe. Plusieurs intellectuels, eux, comme Elisabeth Badinter ou Mona Ozouf, par exemple, se sont réclamés d'un féminisme universaliste, c'est le moment où le terme commence à apparaître, opposé à toute politique des quotas et à toute revendication communautaire. et elles ont fait donc de l'universalisme républicain un dogme de la conception française de la représentation politique. Pardon. En revanche, ce dogme ou ce principe de l'universalisme républicain était attaqué par des figures comme Sylvia Nagasinski ou Gisèle Halimi, qui y voyaient un instrument d'exclusion des femmes et invitaient à penser un universel supérieur faisant une place à la division sexuelle de l'humanité. Gisèle Halimi écrivait en 1997 dans une tribune au Monde « L'universalisme indifférencié a bâillonné de son abstraction la réalité d'un universalisme sexué. C'est pourtant par la reconnaissance de l'identité sexuelle et de sa différence que l'égalité entre hommes et femmes trouve son fondement. » Et si j'ai cité parmi les opposantes et les opposants à la loi Elisabeth Badinter et Mona Ozouf, outre leur visibilité dans le débat public, c'est qu'elles sont toutes les deux des spécialistes du XVIIIe siècle, plutôt des Lumières pour l'une, de la Révolution pour l'autre, et qu'elles ont ainsi beaucoup contribué à associer l'héritage des Lumières à cette idée d'un universalisme nécessairement abstrait. Par la suite, dans les années 2000, suite à ce double débat autour d'un côté du multiculturalisme et de l'autre de la question de la parité, le syntagme universalisme républicain a commencé à s'imposer. J'ai fait une recherche sur les bases de données de la presse française qui montre qu'il était extrêmement rare jusqu'à la fin des années 90, vous cherchez, personne ne parle d'universalisme républicain, et qu'il devient progressivement de plus en plus fréquemment utilisé pour se opposer à ce qu'on appelle désormais non plus le multiculturalisme, mais le communautarisme. C'est la nouvelle figure de la menace anti-républicaine à partir des années 2000. Mais c'est toujours la même idée, l'unité nationale serait mise en danger par des forces centrifuges, par l'affirmation de tribus irréductibles au droit commun. Les années 2000 sont aussi marquées par un nouveau contexte international, celui du terrorisme islamiste, avec, bien sûr, l'attentat du 11 septembre 2001 à New York, puis ceux de la gare de Madrid en 2004, celui du métro de Londres en 2005, pour ne citer que ceux qui ont le plus frappé l'opinion publique française dans ces années-là. Et donc, dans ce contexte troublé, le discours de l'universalisme républicain subit une double inflexion. Tout en continuant à réunir certains intellectuels et hommes politiques venus du Parti socialiste, ils glissent progressivement vers la droite. À la laïcité et à la liberté d'expression, il associe plus fortement l'autorité de l'État et la grandeur nationale dans un registre néo-gaullien qu'affectionne par exemple Nicolas Sarkozy, mais aussi un mot d'ordre assimilationniste qui conduit à mettre l'identité nationale au cœur de l'agenda politique. Je vous rappelle qu'en 2007, à l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, a créé un ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, suivi en 2009 d'un débat, grand débat sur l'identité nationale qui suscite beaucoup de tensions, de controverses, et fait ressortir l'injonction à l'assimilation dont nous avons vu, rappelez-vous, qu'elle était fortement liée à l'histoire coloniale de la République au XIXe siècle. En sens inverse, de l'autre côté, si vous voulez, la critique de l'universalisme républicain est menée ces mêmes années par les porte-paroles de minorités issues de l'immigration, souvent venues d'anciennes colonies, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, et qui ne demandent pas simplement l'intégration tacite à la nation, mais aussi une reconnaissance des effets traumatiques de la colonisation depuis la traite atlantique jusqu'à la guerre d'Algérie, et une prise de conscience par la société française des continuités entre le racisme colonial et les discriminations subies au quotidien par les descendants décolonisés. C'est en 2005 l'appel des indigènes de la République qui demande à la France de faire son examen de conscience sous la forme d'un retour critique sur son passé colonial, mais aussi sur certaines de ses valeurs totémiques. Les signataires affirmaient, je cite, « Il est temps que la France interroge ses lumières ». Et ils opposaient, les signataires, c'est intéressant de relire aujourd'hui ce texte de 2005, ils opposaient l'universalisme égalitaire issu de la Révolution française, qui était jugé positif et dont ils se réclamaient, et de l'autre côté, le chauvinisme de l'universel, un relent colonialiste, accusé d'avoir toujours cherché à civiliser sauvages et sauvageons. Donc vous voyez, opposition en fait entre deux figures de l'universel, toutes deux, hein, c'est ce qu'on a montré pendant toute cette série de cours, hein, toutes deux d'une certaine manière enracinées dans l'histoire complexe des langages de l'universel venu du XVIIIe siècle, celui de l'égalité des droits et celui de la civilisation. Aux demandes d'égalité s'ajoutaient des demandes de reconnaissance symbolique, notamment sur le plan historique, qui allait marquer le champ des affrontements symboliques, en faisant de l'histoire coloniale et de son enseignement un véritable champ de bataille. C'est cette même année 2005, peut-être que vous vous en souvenez, qu'eut lieu le débat, ou plus exactement la controverse, autour du rôle positif qu'une loi voulait reconnaître à la colonisation française en Afrique du Nord. Ah, et là aussi, hein, vous reconnaissez, évidemment, je n'ai pas besoin d'insister, les origines de nombreux débats qui, aujourd'hui, continuent à agiter la sphère publique. Ce qu'il faut bien comprendre, très important, c'est que le débat, tout ce débat, n'opposait pas, comme certains voudraient le faire croire, des républicains aux adversaires de la République, mais plusieurs conceptions de la République. C'est ce qu'a bien montré Cécile Laborde dans un livre publié d'abord en anglais, puis en 2008, puis dans une version plus courte en français en 2010, sous le titre « Républicain, encore un effort pour être républicain », clin d'œil évidemment à Assad, et qui revenait sur la question du voile et des débats suscités par la question du voile. Laborde distingue les républicains classiques qui font primer une conception stricte de la laïcité et de l'émancipation par arrachement à la religion, mais au détriment de la liberté de conscience religieuse, et les républicains tolérants qui mettent en avant la neutralité de l'État, la liberté subjective des individus et l'importance des politiques de reconnaissance. Les premiers prennent le risque d'être aveugles aux effets de domination qui s'exercent sur les minorités, les républicains classiques. Les seconds, les républicains tolérants, manquent, dit-elle, d'un cadre normatif pour penser la communauté politique au-delà des identités particulières. Ce qui conduit Laborde à proposer une troisième voie, inspirée par les travaux du philosophe Philippe Petit, celle d'un républicanisme critique, attentif à lutter contre toutes les formes de discrimination, sans pour autant enfermer les individus dans des sous-groupes identitaires. Pour la citer, ce républicanisme critique recommande non la reconnaissance de l'autre, en italique, mais la pluralisation du « nous » qui fonde le sentiment d'appartenance collective. Fin de la citation. Donc, non pas une simple politique des différences, mais une politique pluraliste, ce qui est évidemment différent. Comme nous l'avons vu tout au long des séances précédentes, une telle position est tout autant légitime à se réclamer des langages de l'universel hérité des Lumières que le républicanisme arc-bouté sur une conception rigide de la laïcité. Ce n'est toutefois pas, vous le savez, la direction qu'a prise le débat intellectuel et politique, puisqu'il n'a au contraire cessé de se polariser entre le durcissement du républicanisme classique d'une part et la radicalisation de certaines revendications identitaires de l'autre. L'universalisme est alors émergé comme un des enjeux polémiques, un de ces mots-clés sur lesquels tout le monde s'empoigne et se déchire, comme je l'avais rappelé lors du premier cours. De fait, universalisme républicain est devenu le mot d'ordre, presque le slogan des républicains classiques, tandis qu'ils ne s'opposaient plus à la menace libérale, comme dans les années 80, on l'a vu, mais au communautarisme, désormais. Et ce qui est symptomatique, c'est qu'alors que, je vous ai dit, dans les années 80, c'est le modèle des républicains, c'est la Révolution française, désormais, hein, ils ne se réclament plus de la Révolution, mais ils se réclament des Lumières. C'est le moment, hein, cette mutation du républicanisme va récupérer la référence aux Lumières. L'horizon d'égalité sociale, qui nourrissait le néo-républicanisme des années 80 et encore en 90, est progressivement abandonné au profit d'un discours assimilationniste et hostile aux religions, c'est-à-dire en réalité à l'islam. Cette évolution, elle est complexe, elle est multiple, mais elle est notamment portée et relayée par des intellectuels et journalistes au début des années 2000 et notamment, enfin, je ne le prends pas tout à fait au hasard, c'est justement en faisant des recherches systématiques à partir de nombreux mots-clés sur tous les moteurs de recherche de la presse française des années 90-2000 que j'ai vu émerger le rôle important d'Alain Gérard Slama, qui était à la fois professeur à Sciences Po, essayiste, éditorialiste au Figaro, qui jouait comme ça un rôle assez important et qui ne cessait de brandir dans ses éditoriaux l'universalisme et les Lumières comme des remparts contre ces deux mots qui étaient à ses yeux le mal identitaire et la fracture communautaire. Contre cette menace, comparable à ce que furent dans leur temps, écrivait-il, le fascisme et le stalinisme, les républicains ne devaient s'autoriser aucun compromis, aucune faiblesse, et réitérer inlassablement leur confiance dans l'individu libéral issu des Lumières. Vous voyez le retournement, et leur refus de toute forme d'autocritique à l'égard de l'histoire nationale. Un des ressorts polémiques de l'argumentation consistait à associer les revendications identitaires au terrorisme islamiste. L'islamisme radical était, disait Slama, le bras armé du communautarisme sectaire, ethnique et identitaire, qui prend aujourd'hui le relais du marxisme-léninisme. Toute revendication identitaire est ainsi indexée à une menace radicale contre, je cite, « la civilisation et l'héritage des Lumières ». Et toute tentation de reconnaître des erreurs du passé devait être interprétée comme un signe de faiblesse, une sorte de pétainisme moral face à l'ennemi. Alors, ne croyez pas, je sais que vous avez mauvais esprit, donc ne croyez pas que j'ai inventé cette accusation de pétainisme moral, c'est en fait la métaphore centrale d'un des livres d'Alain Gérard Slama, hein, Le siècle de Monsieur Pétain, essai sur la passion identitaire, paru en 2005, dont sont issues les citations que je viens de lire. Alors, on retrouve ici, dans ce mixte d'analyses historiques, de descriptions apocalyptiques d'une république attaquée par le nouveau totalitarisme communautaire, les origines d'un discours conservateur qui, au nom de l'individu libéral et de la raison, construit un adversaire puissant, sorte de synthèse entre les totalitarismes du XXe siècle et l'islam politique. Et c'est ce discours qui est relayé ensuite dans les années suivantes au point de devenir l'idéologie dominante de la droite intellectuelle française, puis d'aboutir plus récemment aux accusations d'islamo-gauchisme, hein, on a vraiment l'origine là, le terme n'y est pas, mais et enfin à la croisade contre le wokisme, reprenant le vocabulaire et les obsessions de la droite et surtout de l'extrême droite américaine. Alors, entendons-nous bien, hein, je ne dis pas qu'il n'existe pas d'islamisme en France, ce serait totalement absurde. Les attentats de 2015, puis l'assassinat de Samuel Paty, entre autres horreurs, nous l'ont rappelé de manière tragique. De même, il ne fait aucun doute que certains mouvements militants, à force d'insister sur les identités minoritaires, conduisent à des excès, ce qui d'ailleurs fut historiquement le cas de tous les militantismes. Mais des expressions comme islamo-gauchisme ou wokisme ne visent justement pas à analyser ces menaces ou ces dérives en tant que telles, mais à créer des amalgames par lesquels de véritables terroristes, c'est-à-dire ceux qui mettent des bombes et assassinent, sont assimilés aux militants LGBT, aux femmes protestant contre les violences sexuelles et aux personnes luttant contre les violences policières. Au nom de l'universalisme, ce sont justement des combats pour l'universel qui sont dénoncés et disqualifiés. Alors, cette évolution que je viens de retracer rapidement du républicanisme français, ou en tout cas plus exactement de certains courants du républicanisme français, lui a valu des critiques virulentes. Dans le champ philosophique, j'avais... Ben voilà, Dominique Schnapper, la slide qui s'était inversée. Bon, maintenant, vous avez les références, voyez le livre, vous pourrez vous y reporter. Donc, dans le champ philosophique, j'avais évoqué le livre récent de Jean-Fabien Spitz, « La République, quelle valeur ?», qui parle carrément d'un nouvel intégrisme politique et qui, dans la continuité des travaux de Jean Bobéro, dénonce une falsification de la laïcité chez certains républicains partisans d'une laïcité de combat, alors que, a montré Bobéro à partir d'études historiques extrêmement sérieuses, la loi de 1905 était bien plus libérale. Replié sur les valeurs, l'universalisme républicain ne serait plus, dit Spitz, qu'un ordre moral ajouté au néolibéralisme, sans plus aucune ambition d'émancipation ou de réduction des inégalités. Vous avez dit, hein, je ne reviens pas mes réserves néanmoins sur cette notion de falsification qui me semble historiquement peu fondée, mais j'y reviens pas. Plus virulent encore, l'essayiste italien Raffaele Alberto Ventura, dans un article de la revue Esprit, accuse ce qu'il appelle les nouveaux réactionnaires de promouvoir un suprémacisme républicain. Sa thèse est qu'il se distingue ainsi des mouvements conservateurs ou même réactionnaires traditionnels, hostiles à la modernité et donc aux Lumières. Eux, à l'inverse, ces nouveaux réactionnaires, sont non pas des anti-modernes comme l'était tout le courant contre-révolutionnaire, mais au contraire des hyper-modernes. Ils ont radicalisé certains aspects de la modernité, l'individualisme, la liberté d'expression, la grandeur nationale, tout en rejetant d'autres, la globalisation, le métissage, la diversité culturelle, l'émancipation des femmes. Par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que toute la référence aux Lumières, alors là, on est dans des cas, effectivement, hein, ce que vise ici Ventura, c'est des cas quand même assez extrêmes hein, dans la radicalité de la référence au néo-républicanisme, mais ce qui est intéressant, c'est que si on le suit, c'est toute la référence aux Lumières qui est défigurée, puisque celle-ci avait justement pour vertu de faire tenir une ambition d'émancipation démocratique par le savoir, un projet de défense des libertés et un horizon cosmopolite. Au-delà de la plasticité habituelle de ces usages, qu'on a largement documenté ces dernières semaines, au fond, c'est une véritable subversion de la notion de lumière qui est à l'œuvre. Et vous savez peut-être qu'aux États-Unis, actuellement, certains courants de l'extrême droite vont encore plus loin et en viennent à promouvoir la notion paradoxale de « dark enlightenment », les lumières obscures, selon le concept défendu par un ingénieur et blogueur de la Silicon Valley, Curtis Yarvin. Curtis Yarvin qui aurait dû, à vrai dire, lui-même rester dans une certaine obscurité s'il n'était pas une des références idéologiques de l'actuel vice-président J.D. Vance. Au-delà du plaisir transgressif qu'il peut y avoir, pour lui j'imagine, à s'approprier en la dénaturant la référence aux Lumières, celle de ses adversaires, eh bien cette formule oxymorique désigne une volonté explicite, très explicite hein, dans les textes de Yarvin, une volonté explicite de détruire la démocratie au nom d'une liberté d'expression qui est à la fois illimitée et totalement coupée des droits politiques. Ça, c'est sa grande idée. C'est-à-dire qu'on a un idéal, c'est l'idéal qui est promu par les Dark Enlightenment, c'est celui d'une société qui associerait l'horizontalité des réseaux, où chacun peut dire ce qu'il veut, puisque ça ne prête pas à conséquences, et que ça même entraîne un bruit général qui fait que toute notion de vérité est à peu près bannie. Donc chacun peut dire ce qu'il veut, et à côté de ça, la verticalité d'un régime politique construit sur le modèle d'une entreprise de la tech. Non, c'est clairement, très clairement ce que dit Yarvin et ceux qui sont autour de lui. C'est donc, à certains égards, un nouvel universalisme au sens où radicalement antidémocratique et anti-égalitaire, universalisme au sens où il prétend incarner un nouveau discours valable pour tous et partout, mais non-universaliste et donc non-démocratique dans la mesure où il renonce à l'idée d'égalité des individus, peut-être même à l'idée d'une nature humaine commune. Alors, en France, vous allez me dire, nous n'en sommes pas là, heureusement, pas forcément toujours si loin lorsque la référence à l'universalisme aux Lumières est brandie comme un argument d'autorité pour dénoncer tout un pan des recherches en sciences humaines et sociales, ou encore l'indépendance et l'autonomie des institutions de savoir. À vrai dire, la référence aux Lumières est parfois tellement instrumentalisée dans tous les sens qu'elle finit par perdre son sens et n'être plus qu'un slogan. Alors, arrivé à ce point, vous voyez bien que nous retrouvons des éléments qui vous sont familiers parce qu'ils font partie de notre actualité ou dont j'avais déjà parlé. J'aurais pu, bien sûr, être plus long sur les évolutions des 20 dernières années, ce que j'avais prévu, en fait, de faire toute la séance, mais il me semble qu'au fond, je n'ai pas trop besoin de m'apesantir, car tout ce que j'ai dit lors des séances précédentes vous permet, d'une part, de faire votre propre opinion sur les débats actuels et surtout de jeter un regard critique ou du moins prudent sur les usages rhétoriques et idéologiques de l'universalisme au singulier, comme s'il s'agissait d'un concept unique et bien défini. Et je vous avoue aussi que je n'avais pas très envie de terminer ces deux années de cours sur la description de polémiques qui traduisent, à mes yeux, un regrettable rétrécissement du débat intellectuel. Et donc, je propose plutôt pour terminer, de prendre un peu de recul. Et pour cela, je rappelle d'abord, encore une fois, mais je vous promets que c'est la dernière, ce que j'ai essayé de faire pendant ces deux années. Il s'agissait de comprendre les enjeux embrouillés des discours sur l'universel et la place qui occupe les références aux Lumières. Mon premier geste, vous vous en souvenez, a consisté l'année dernière à pluraliser les discours sur l'universel que l'on trouve dans les textes du XVIIIe siècle, ce qui m'a amené à distinguer, derrière la fable d'un unique universalisme des Lumières, avec des guillemets, la réalité de trois langages distincts de l'universel, hein, donc je ne parle pas d'universalisme, mais de langage de l'universel. Premièrement, l'universalisme cosmopolite, fondé sur la raison universelle, le droit et la liberté de conscience. Deuxièmement, l'universalisme historique, qui promeut la civilisation et le progrès, en donnant l'Europe en modèle. Troisièmement, l'universalisme critique, qui s'enracine dans une protestation contre les dominations injustes et retourne le droit naturel contre l'Europe. Tous les trois naissent en s'opposant à l'universalisme chrétien, mais aussi en reprenant certains éléments, ne serait-ce que l'idée d'une dignité particulière de la personne humaine. Bon, je ne développe pas, hein, j'ai passé beaucoup de séances à exposer ces trois langages. J'ai ensuite essayé de montrer comment ces trois langages se sont développés comme trois registres argumentatifs et rhétoriques qui se sont reconfigurés dans des contextes différents à l'ère des révolutions, à l'époque de la colonisation, puis à nouveau sous l'effet du grand mouvement des décolonisations et de l'émergence d'un monde global et multipolaire. Bien sûr, je le regrette, je n'ai fait que couvrir des pistes et proposer quelques éclairages sur des œuvres et des débats qui méritent évidemment des analyses plus poussées, plus contextualisées par des gens aussi plus spécialistes. Surtout, vous l'avez remarqué, j'ai privilégié le cas français, élargi à la dimension francophone à travers ces deux dernières semaines, l'exemple d'Haïti et de ses répercussions. Alors, il y avait à cela des raisons pratiques, évidemment, des raisons de compétences essentiellement, mais il y avait aussi une volonté de produire une généalogie de ce dont je viens de parler pendant 40 minutes, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'universalisme républicain, et de montrer que celui-ci, qu'on s'en réclame ou qu'on le critique, est le fruit d'une histoire et qu'il ne peut prétendre à un droit de propriété exclusive sur l'héritage des Lumières. C'est au fond ma conclusion. Bien au contraire, il existe d'autres conceptions de l'universel ancrées dans l'histoire des discriminations, des révoltes pour la justice, de la lutte anticoloniale ou d'une reconnaissance de la diversité des cultures, conceptions qui peuvent tout aussi bien se réclamer des Lumières. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, je ne dis pas d'ailleurs que ce sont des conceptions ou des langages qui sont meilleurs ou favorables. Chacun peut. Et j'ai insisté sur le fait que chacun de ces langages a ses propres points d'obscurité et peut être retourné de manière impérialiste. Par conséquent, J'ai été, en me concentrant sur la France et l'histoire, en tout cas, des penseurs francophones, j'ai été obligé de laisser de côté la façon dont les débats sur l'universel ont été abordés et traités dans d'autres cultures politiques. Et c'est ce point que je voudrais très rapidement, trop rapidement, esquisser pour finir, même si, bien sûr, étudier la pluralité des... Assurez-vous, hein, je ne vais pas faire le tour du monde de l'universel, juste donner quelques pistes, parce que, évidemment, étudier la pluralité des langages de l'universel à une échelle mondiale ne peut être sérieusement entrepris que sous une forme collective, en associant des spécialistes de différentes aires culturelles, sera peut-être l'objet d'un futur colloque. Et donc, en attendant, juste pour conclure, quelques mots en forme de piste. L'approche la plus intuitive, celle qui n'est guère originale, consiste à élargir la perspective aux États-Unis, l'autre pays qui a proposé au monde, à la fin du XVIIIe siècle, un discours universaliste issu des Lumières, articulant droit à l'indépendance, affirmation du droit naturel et libéralisme politique. À côté de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 a connu aussi une postérité mondiale exerçant durablement un effet de fascination sur toutes les nations aspirant à l'indépendance, comme l'a montré David Armitage dans son Histoire globale de la Déclaration d'indépendance. Dès lors, un lieu commun oppose deux universalismes, celui de la France et des États-Unis, ou plutôt deux impérialismes de l'universel, pour reprendre une formule de Pierre Bourdieu. Le grand politiste américain spécialiste de la France, Stanley Hoffman, écrivait en 2000 un article intitulé « Deux universalismes en conflit » qui commençait par ces mots « Les États-Unis et la France sont les seules nations qui présentent leurs valeurs comme universelles et s'offrent en modèle au reste du monde. » Alors, je pense qu'il fallait quand même être un spécialiste américain de la France pour écrire une phrase pareille. Mais il faut sans doute tenir compte du contexte. 2000, c'est peut-être la dernière année où il était encore possible de croire que les démocraties libérales avaient le monopole de l'universalisme. Alors restons néanmoins un instant sur cette idée, qui est quand même intéressante, d'un conflit ou d'une rivalité de longue durée entre deux universalismes issus des révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle. J'ai beaucoup parlé des ambiguïtés, des contradictions de l'universalisme français dans son rapport complexe à l'égalité des droits et à l'unité de la nation, qui peut parfois devenir un désir d'uniformité culturelle au détriment du pluralisme et de la liberté. De l'autre côté, l'universalisme américain n'est pas moins complexe et il mériterait de nombreuses séances. Il repose lui aussi sur l'héritage des Lumières, mais il l'articule à une dimension religieuse plus présente, depuis le grand réveil puritain de la fin du XVIIIe siècle, et il doit faire face à d'autres difficultés, au premier plan, bien sûr, l'esclavage, puis ses conséquences durables. Il aboutit au final à un discours de l'exceptionnalité, la destinée manifeste, formulée par John O'Sullivan en 1845, et un discours tourné vers le monde à travers le soft power, incarné par Hollywood notamment, ce que l'historienne De Grazia a appelé l'empire irrésistible. Dans un livre récent, le politiste japonais Osamu Nishitani a proposé de voir dans l'histoire des États-Unis un impérialisme de la liberté fondé sur l'imaginaire de la liberté religieuse et la fiction d'un territoire vierge, fiction évidemment, sur lequel le capitalisme allait pouvoir s'étendre indéfiniment. Ce territoire, vous le savez, est aujourd'hui élargi à l'espace, à la conquête des étoiles. Et on pourrait alors dire, pour simplifier évidemment, c'est très schématique, c'est vraiment la dernière séance, dernier quart d'heure, je me lâche. Donc c'est très schématique, mais il me semble qu'on pourrait dire qu'on assiste aujourd'hui à une double pathologie symétrique. D'un côté français, l'abus du langage égalitaire de l'assimilation, et du côté américain, l'abus du langage de la liberté. Car, et c'est ça qui est frappant, pourquoi je parle de pathologie ? Parce qu'il y a un moment où ces deux notions finissent, poussées à l'extrême, par se retourner contre elles-mêmes. En France, l'universalisme dit abstrait aboutit à défendre le statu quo et les inégalités en interdisant de mesurer les discriminations et donc de lutter efficacement contre elles. Aux États-Unis, le discours en apparence ultralibéral menace le libéralisme lui-même sur le plan économique, avec l'offensive contre le libre-échange et la concurrence. C'est le capitalisme de la finitude, décrit récemment par Arnaud Aurin dans son livre « Le monde confisqué ». Sur le plan politique, avec l'attaque contre les juges et les universités. Au final, des deux côtés de l'Atlantique, un renoncement à l'universalisme et un repli dans le particulier, America First et nationalisme républicain. Mais il faut sortir de ce face-à-face, car l'idée selon laquelle la France et les États-Unis sont les deux seuls pays à tenir un discours universaliste, c'est évidemment une vue de l'esprit, une simplification abusive. Il existe en réalité bien d'autres discours de l'universel, même s'ils ne se réclament pas des Lumières, bien au contraire. J'avais évoqué lors de la première séance, vous en souvenez peut-être, le cas de la Chine, et on pense aussi à certains courants de l'islam. Historiquement, de nombreux régimes impériaux ont tenu des discours universalistes. Prenons un exemple très éloigné de tout ce dont je viens de parler, c'est le cas de l'Inde moghole. Le fils de l'empereur Akbar, nommé Salim, le fils de l'empereur Akbar a changé de nom au moment d'arriver au pouvoir pour régner et a pris le nom de Jahangir, qui signifie précisément « celui qui domine le monde ». Son propre fils, à son tour, règne sous le nom de Shahjahan, qui veut dire « roi du monde ». C'est lui. Sur l'image, sur cette peinture, vous le voyez, debout sur un globe terrestre, celui-ci étant centré sur le sous-continent indien, et les animaux, alors vous les devinez peut-être, vous avez une bonne vue, ils sont sur le globe, en dessous, donc c'est un lion et un tigre qui marquent la capacité du souverain à assurer une paix universelle en permettant aux animaux opposés de cohabiter pacifiquement. Comme l'explique l'historienne Corinne Lefebvre, spécialiste de cette période, eh bien ces images, comme les discours officiels du pouvoir qui les accompagnaient, visaient à affirmer l'ambition universelle des souverains moghols, bien au-delà de l'Inde, ambition fondée à la fois sur leur généalogie, puisqu'ils descendaient de Gengis Khan et de Tamerlan, les deux grands conquérants venus d'Asie, et sur le raffinement de la civilisation indo-persane. Alors, si je prends ces éléments, c'est pour montrer que l'universalisme n'est pas nécessairement indexé aux Lumières, au libéralisme politique et à l'émancipation. En revanche, il est toujours associé d'une façon ou d'une autre à des formes d'impérialisme, même lorsque celui-ci prétend agir au nom de l'émancipation des peuples. Et si vous y réfléchissez, c'est d'ailleurs assez normal. Si vous pensez que les valeurs et les manières de vivre que vous défendez, qui sont les vôtres, sont valables pour tous, partout, parce qu'elles correspondent à une vérité universelle de la nature humaine, eh bien, vous êtes conduit à les étendre le plus largement possible, que ce soit pour libérer les peuples asservis, pour étendre les bienfaits de la civilisation, ou encore pour diffuser la vraie foi. Par ailleurs, il serait tout aussi erroné d'opposer un universalisme hérité des Lumières, libéral, individualiste, égalitaire, et des universalismes religieux qui, eux, seraient anachroniques et obscurantistes. D'une part, parce que les langages de l'universel qui se réclament des Lumières, nous l'avons vu abondamment tout au cours de l'année, sont pluriels. D'autre part, parce qu'ils partagent davantage qu'on ne le croit avec d'autres formes d'universalisme, ne serait-ce que la pulsion impérialiste que je viens d'évoquer. Enfin, parce qu'il existe dans le monde moderne de nombreuses figures de syncrétisme qui viennent greffer le discours ou certains discours de l'universel des Lumières sur d'autres traditions culturelles ou, si vous préférez, qui réinterprètent leurs propres traditions à la lumière de la modernité. Prenons l'exemple du Japon. Comme vous le savez, il fut le premier pays asiatique à s'inspirer des Lumières européennes. Les élites japonaises y ont cherché plusieurs choses. Premièrement, un idéal politique, libéral et républicain, comme ça a été le cas de Nakae Chomin, traducteur de Rousseau en japonais dès les années 1880, auquel Édith Dufourmont a consacré toute une série de livres, dont le tout dernier vient de paraître. Deuxièmement, une conception positive du savoir et de la connaissance, et enfin, j'avais envie de dire, et surtout, troisièmement, un accès à la modernité scientifique et technique. À la fin du XIXe siècle, et encore au cours du XXe, et surtout au cours du XXe siècle, enfin, dans la première moitié du XXe siècle, le Japon n'a pas toujours, évidemment, été fidèle à l'inspiration libérale. Vous savez, les années 1930 et 1940 étant marquées par le nationalisme autoritaire et le militarisme impérialiste. En revanche, il a toujours cherché l'émulation avec les Occidentaux sur le plan de la modernité industrielle, a fortiori après la Seconde Guerre mondiale. Or, il se trouve qu'il existe, c'est une chance, depuis le XIXe siècle, un lieu où s'exprime justement cette émulation, une sorte de coupe du monde de la modernité industrielle. Eh bien, ce sont les expositions universelles, et c'est le lieu qu'a choisi l'anthropologue Sophie Houdard pour étudier la façon dont se fabrique l'universalisme japonais. Dans un livre qui s'appelle « L'universel à vue d'œil », consacré à l'exposition universelle de Aichi, qui s'est tenue en 2005, elle montre comment les Japonais ont cherché à universaliser les valeurs qui leur sont propres en négociant leur inscription dans un cadre aussi formalisé que celui des expositions universelles. En effet, 35 ans plus tôt, l'exposition universelle d'Osaka, en 1970, qui était la première exposition universelle à se tenir au Japon, avait marqué le triomphe de l'industrie japonaise. Le pays avait tenu à s'inscrire dans cette tradition des expositions universelles héritées du XIXe siècle, avec le culte de l'objet matériel comme prouesse technique et comme marchandise. Mais en 2005, l'objectif fut bien différent. Le titre de l'exposition était, le titre retenu, était « Au-delà du développement, à la redécouverte de la sagesse de la nature ». L'exposition devait permettre au Japon de manifester la dimension universelle de sa propre culture, de produire un contre-discours de la modernité dans un cadre qui était par excellence celui de la modernité capitaliste. Il s'agissait donc de célébrer la nature et les paysages en organisant la première exposition universelle écologiste. Et l'idée était d'organiser l'exposition dans la forêt de Kaisho, dans un Satoyama, terme qui désigne un paysage typiquement japonais, une nature aménagée mais pas trop, un espace liminal entre le monde des hommes et la nature. Le terme même, comme l'a montré Nicolas Baumer dans un article, le terme même de Satoyama est assez récent, mais il a connu un succès foudroyant au Japon et dans le monde entier, surtout après la conférence de Nagoya sur la biodiversité en 2010. Il représente aujourd'hui un idéal ancré dans la tradition culturelle japonaise, une tradition peut-être en partie réinventée, hein, comme toutes les traditions, mais qui correspond à une attente nouvelle face aux excès de l'urbanisation, de l'industrialisation et de l'occidentalisation. Vous savez, les Satoyama, ce sont ces mêmes espaces, hein, ce rapport très particulier à la nature qui font, par exemple, le succès global, mondial, des films de Miyazaki. Et d'ailleurs, le Satoyama de l'exposition universelle de 2005 faisait ouvertement référence à Mon voisin Totoro. Et j'avais promis de citer Mon voisin Totoro. C'est fait, c'est pour la checklist. Alors, ce que montre très bien Sophie Houdard, ce sont les détails concrets par lesquels les organisateurs japonais ont cherché à affirmer cette revendication d'universalité au cœur même de l'exposition. Comme elle l'écrit, l'universel ne se décrète pas, il se construit patiemment par des dispositifs concrets et pas seulement par des idées ou des discours. Il se construit par des opérations d'universalisation qui doivent être acceptées et reconnues comme telles. Alors, vous aurez peut-être reconnu la référence théorique sous-jacente à ce propos, qui est la sociologie de Bruno Latour, attentive aux dispositifs matériels qui construisent et soutiennent des revendications d'universalité des faits scientifiques. Dans cette perspective, l'universel n'est pas un donné qu'il faudrait simplement reconnaître en s'approchant de la vérité, mais il n'est pas non plus une simple stratégie de pouvoir ou de domination. Il est une façon de construire des mondes communs. Comme l'écrit Sophie Houdard, je cite, « Un universel ne s'impose pas de lui-même, il est travaillé, négocié, rogné et corrigé. » C'est à la fois contre-intuitif, mais je crois intellectuellement très productif. Autrement dit, l'universel japonais s'inscrit aujourd'hui dans une négociation avec la modernité occidentale entre surenchère et adaptation, ou encore captation du prestige d'une forme, les expositions universelles, au profit de l'universalisation d'une culture particulière, mais dont les enjeux, l'écologie, sont aujourd'hui potentiellement universalisables. D'autres constructions possibles se situent en revanche dans une opposition, cette fois frontale, avec la modernité industrielle et occidentale. Vous vous souvenez que j'ai évoqué la semaine dernière ce texte fondateur de l'indigénisme haïtien que fut Ainsi par la l'oncle de Jean Price Mars, hein, valorisation des racines africaines de la paysannerie haïtienne. Mais ce geste de Price Mars était lui-même permis par son inscription de son auteur dans un dialogue avec l'ethnographie européenne et nord-américaine. Et c'est évidemment le lot de la plupart des mouvements indigénistes promus par des intellectuels qui sont eux-mêmes internationalisés et dont les livres sont parfois plus lus par les écrivains des autres pays que par leurs propres compatriotes. Et on sait d'ailleurs à quel point la culture africaine haïtienne, à travers le vaudou et la figure du zombie, a fait elle-même l'objet d'un processus de globalisation que l'on peut appeler universalisation ou au contraire récupération par l'industrie mondiale du divertissement, selon l'idée qu'on veut s'en faire. Mais il y a aussi des formes plus ouvertement ironiques et ludiques. C'est le cas du manifeste anthropophage du poète brésilien Oswald de Andrade, publié aussi cette même année 1928 dans le premier numéro de la revue d'anthropophagie. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs habituels de la revue d'anthropophagie. Vous avez ici la reproduction. Le geste de Andrade fait de l'anthropophagie, enfin le texte plutôt, ce manifeste, à la fois intellectuel, littéraire, poétique et politique, fait de l'anthropophagie à la fois une loi universelle et une pratique ancrée dans le passé indigène du Brésil. Voilà ce qu'écrit le début du manifeste, dès le début. Seule l'anthropophagie nous unit, socialement, économiquement, philosophiquement. Unique loi du monde, c'est pas plus universel, unique loi du monde, expression masquée de tous les individualismes, de tous les collectivismes, de toutes les religions, de tous les traités de paix. Donc, geste à la fois donc, poétique, politique et ironique, Andrade est très influencé par la poésie et l'art moderne européen, de même que sa compagne, Tarsila do Amaral, la grande peintre moderniste brésilienne, dont un dessin illustre, vous le voyez ici, le manifeste, un dessin issu de sa célèbre toile Abaporu. Alors, certains d'ailleurs d'entre vous ont peut-être vu la belle exposition qui lui a été consacrée à l'automne dernier au musée du Luxembourg, à Tarsila. Andrade et Tarsila ont passé du temps à Paris au début des années 1920. En même temps, ils cherchent à s'en distinguer de ce modernisme européen en proposant une esthétique nationale brésilienne qui permette de renouer avec les traditions locales, avec les paysages brésiliens, avec les populations autochtones, mais aussi avec les populations afrodescendantes et surtout donc avec le métissage désormais pensé comme le processus fondateur de la société brésilienne. L'anthropophagie, si fortement associée aux Tupi-Guarani dans la culture européenne, depuis les récits horrifiés des premiers voyageurs et missionnaires, est alors retournée, brandie, comme si le propre de la culture brésilienne était justement de se nourrir, au sens figuré, de tout ce qui lui est étranger pour le métaboliser. Andrade écrit « Seul m'intéresse ce qui n'est pas mien ». Autrement dit, c'est la loi fondamentale de l'anthropophagie où l'on ne devient soi qu'en incorporant l'autre. Celui-ci ne doit pas être dominé, il ne doit pas non plus être assimilé, il doit être ingurgité, modifiant ainsi le mangeur lui-même. Alors la métaphore, évidemment, elle fait signe vers Freud, dont Totem et Tabou est paru en 1913. Si la dévoration du père par la horde primitive est une loi universelle de l'inconscient social, alors le manifeste anthropophage est une contre-utopie, à la fois primitiviste et moderniste, qui retourne le discours civilisateur et colonial européen, mais sans aucun passéisme, en se projetant au contraire dans un imaginaire techniciste. Ce qui est à la fois un discours très sérieux, mais avec une dimension ludique propre à la culture moderniste. l'anthropophagie est aussi le recyclage ironique des formules canoniques de la culture occidentale. Et je ne résiste pas, pour ceux qui l'ignorent, à vous citer une des phrases clés du manifeste, qui est la suivante: to be or not to be, that is the question. Alors, vous pensez sans doute que je suis allé trop loin avec cette histoire d'universalisme cannibale. Je sais ce que vous vous dites, bon, c'est la dernière séance, il est en roue libre, on ne va plus l'arrêter, il est temps que ça s'arrête. Bon, 3 minutes encore, s'il vous plaît. D'ailleurs, le cannibalisme, est-ce que ce n'est pas l'extrême limite au-delà de laquelle l'universalisme s'abolit, la frontière que la tolérance culturelle ne peut pas franchir, au point de sous peine de se désavouer elle-même. Dans les discussions sur l'universel, il y a une plaisanterie du philosophe Léo Strauss qui est souvent utilisée pour clouer le bec des sceptiques, on me l'a déjà opposé, pour prouver l'absurdité du relativisme. Et elle dit ceci: si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est qu'une question de goût. Pas mal, pas mal. Alors, à vrai dire, je n'ai pas trouvé l'origine exacte de cette citation. Si certains ou certaines d'entre vous l'ont, je suis preneur. Elle est peut-être apocryphe, ou alors c'est peut-être une formule que les élèves de Strauss aimaient se répéter entre eux. En revanche, la démonstration, ça je l'ai trouvée, elle est donnée par Léo Strauss dans son grand livre « Droit naturel et histoire », où il explique que si on considère que tout droit est positif, que toutes les valeurs sont historiques, alors eh bien, on n'a aucune raison de justifier le fait de ne pas régresser vers l'anthropophagie et de préférer la civilisation à la sauvagerie. On peut appeler ça la preuve par le cannibale. L'universalisme moral et politique est fondé parce que personne ne peut défendre le cannibalisme. La raison des Lumières nous aura au moins appris cela. Mais est-ce bien sûr? Ce rejet du cannibalisme est-il un héritage de la raison éclairée ou des missionnaires chrétiens et notamment des jésuites? Alors on sait bien sûr le parti qu'a pris Montaigne en utilisant justement le cannibalisme pour remettre l'arrogance européenne à sa place et proposer un humanisme plus conséquent qui préfère le décentrement à l'ethnocentrisme, l'autocritique à l'autosatisfaction. Mais on peut aussi relire l'article « Anthropophage » du dictionnaire philosophique de Voltaire qui s'amuse, avec une désinvolture plaisante, à minimiser non pas l'existence du cannibalisme, mais sa gravité. Et oui, vous ne pensiez pas que j'allais vous quitter sans citer encore une fois Voltaire. Alors, je cite. « En 1725, écrit-il, donc, on amena 4 sauvages du Mississippi à Fontainebleau. J'eus l'honneur de les entretenir. Il y avait parmi eux une dame du pays à qui je demandais si elle avait mangé des hommes. Elle me répondit très naïvement qu'elle en avait mangé. Je parus un peu scandalisé. Elle s'excusa en disant qu'il valait mieux manger son ennemi mort que de le laisser dévorer aux bêtes et que les vainqueurs méritaient d'avoir la préférence. Nous tuons en bataille rangée ou non rangée nos voisins et pour la plus vile récompense, nous travaillons à la cuisine des corbeaux et des vers. C'est là qu'est l'erreur, c'est là qu'est le crime. Qu'importe, quand on est tué, d'être mangé par un soldat ou par un corbeau et un chien. » Alors, je vous laisse en juger. Léo Strauss aurait certainement été scandalisé ou plutôt, il aurait été conforté dans l'idée que les Lumières, déjà, avaient rompu avec les principes universels de justice et de vérité défendus par les monothéismes, qu'elle privilégiait abusivement l'historicité et la pluralité des sociétés humaines sur la contemplation d'une vérité universelle et éternelle. Au fond, c'est tout le paradoxe des langages de l'universel que nous avons hérité de la pensée européenne du XVIIIe siècle, non pas un universalisme abstrait, encore moins une croyance dogmatique dans la supériorité d'une civilisation particulière, mais une tentative admirable, peut-être désespérée, j'espère pas, mais en tout cas admirable, une tentative de prouver que l'unité de la nature humaine est compatible avec la pluralité des cultures et des conceptions du bien. C'est précisément cette tension jamais résolue que désigne le mot de tolérance, qui n'est pas une simple acceptation de l'autre, mais bien, nous l'avions vu l'an dernier chez Pierre Bayle et chez Lessing, un éloge de la bigarrure. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.